Radio Kapi.
Oh, Kapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. 19 personnes tuées à Kilambo, bilan de l'attaque de la localité de Nyamaboko 1er par des miliciens Nyatura dans le territoire de Masisi au Nord Kivu. Depuis août dernier, 42 personnes ont péri lors des accrochages entre Nyatura et NDC Rénové. Fin hier vendredi après-midi à Bruxelles de la 8e édition du Rebranding Africa Forum, les échanges des politiques et des patrons d'institutions bancaires internationales ont porté sur la nécessité de transformer localement les matières premières. Notre invitée, c'est Madame Marie-Thérèse Sombo. Cette neuropsychiatre du CNPP a co-animé un symposium des femmes sur les neurosciences à l'UNIKIN dans le cadre du mois d'octobre, mois de la santé mentale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonsoir au micro. Pascal Masserica, mise en onde de Jean-Claude Nsiala. Au Nord Kivu, 19 personnes ont été tuées hier à Kilambo, groupement de Nyababoko 1er, localité d'Ngouloulou, dans les territoires de Masisi. Des sources locales attribuent ce drame aux miliciens Nyatura. Le député provincial Alexis Bahunga rappelle que depuis le mois d'août dernier, au moins 42 personnes ont perdu la vie dans les accrochages entre les miliciens Nyatura et ceux du NDC Rénové. D'autres précisions avec vous, Pierrot et la Mégie.
C'était hier vendredi après-midi que ces personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été tuées à la machette par les combattants Nyatura après des accrochages avec les combattants du groupe NDC Rénové. Pour le député provincial Alexis Bahunga, ces deux groupes qui s'affrontent aujourd'hui dans le Masisi avaient déjà déposé les armes et étaient cantonnés à Mobambiro près de Goma. Par manque d'encadrement dans ces sites, ils sont rentrés dans la brousse. À leur retour, les Nyatura ont trouvé leurs anciennes positions occupées par des combattants du NDC réfractaires au désarmement. D'où ces différents accrochages pour la récupération de leurs anciennes positions. Si seulement le processus de désarmement avait été bien conduit, nous ne serions pas là à déplorer toutes ces victimes, regrette cet élu de Masisi. Le conseil territorial de la jeunesse de Masisi demande le déploiement de militaires et policiers dans cette zone ainsi que l'accélération du processus de désarmement et de démobilisation. D'autres notables de ces territoires sollicitent l'implication du gouvernement dans cette situation pour éviter qu'on arrive aux tensions entre les communautés Houndé et Hutu dans cette partie.
Nord Kivu, encore les FARDC ont repoussé une attaque des Mai Mai dans le village de Balongi, près de 17 km à l'ouest de la cité de Kantiné, dans le groupement de Baswa Madiwe, secteur de Benimbao. La société civile locale plaide pour la restauration urgente de l'autorité de l'État dans cette partie de la province. Poursuite à Beni, au Nord Kivu, toujours de l'assistance des déplacés et mise en place des activités de la protection. Ce projet qui concerne deux zones de santé du territoire est exécuté par deux organisations non gouvernementales sous le financement du fonds de la RDC sur le plan humanitaire. À Beni, Marc Marofimbo.
8000 ménages dont 5000 dans la zone de santé de Mutuanga et 3000 dans la zone de santé de Beni sont ciblés par ce projet qui consiste à l'assistance en faveur des populations affectées par les déplacements suite à l'insécurité qui règne dans la région à travers la distribution des articles ménagers essentiels et la mise en place des activités de protection, comme l'explique ici Henri Abamungo, superviseur du dit projet au compte de Midefehops.
On va toucher 8000 ménages dont 3000 dans la zone de santé de Wicha, 5000 dans la zone de santé de Mutuanga. Ça va aussi aider les femmes en âge de procréation dans les kits de dignité. À part ces kits de dignité, le projet va prendre en compte les activités de protection, d'où la protection communautaire sera de mise. C'est une approche que nous avons adoptée pour bien faire ce travail au sein de la communauté.
Signalons que ce projet qui va durer 13 mois est financé par les fonds humanitaires de la RDC et qui sera exécuté par deux organisations, dont Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale, MIDEFEOPS, et Rescue International. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
On en vient maintenant à l'économie. Au Nord Kivu, le gouverneur vient d'accepter la mise en place d'une commission mixte entre les opérateurs économiques et le gouvernement provincial pour rabattre ou supprimer carrément les taxes indûment perçues. Cette décision a été prise à l'issue d'un entretien d'hier vendredi après-midi avec l'intersyndicale des petits commerçants de Boutembo, de Beni et de Goma. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, qui était de la partie, a rappelé que l'insécurité a ruiné l'économie dans la partie nord de la province. On écoute Jean-Paul Lumbulumbu.
Il y a des camions qui sont incendiés, il y a des marchandises qui sont pillées, les routes sont dans un état tel que l'ennemi en profite pour appauvrir davantage le petit commerçant. Cela affecte son capital et son bénéfice, de telle sorte que le commerçant devient dans l'impossibilité de s'acquitter de ses obligations du fisc. La rencontre avec le gouverneur a consisté à solliciter du gouverneur un plaidoyer au niveau national afin que la province du Nord Kivu, si par certaines zones, notamment Beni Butembo, soit déclarée des zones sinistrées. En attendant cette décision, les commerçants ont sollicité des allègements fiscaux par rapport à certaines taxes et à certaines pénalités inutiles. Par exemple, le gouverneur de province avait déjà pris une décision suspendant le paiement de la taxe professionnelle annuelle, mais il y a des agents de l'État véreux qui reviennent et qui tracassent la population et le gouverneur n'est pas d'accord sur cette question-là. C'est aussi le cas du paiement du bordereau à la CADECO. Il n'est pas concevable que lorsque vous venez payer l'argent de l'État, que vous puissiez encore payer autant de dollars pour les comptes du bordereau.
Notez que le gouvernement provincial organise lundi prochain à Goma un dialogue fiscal avec toutes les parties prenantes autour de cette question. Et puis, fin hier, vendredi à Bruxelles en Belgique, de la 8e édition du Rebranding Africa Forum. L'événement a réuni autour d'une même table des acteurs politiques et de patrons d'institutions bancaires internationales autour de la nécessité de transformer localement les matières premières. Le ministre congolais de l'industrie, orateur à ce forum, s'est dit conscient des défis à relever pour l'industrialisation de la RDC. Julien Paluku-Kaunga est au micro de Sintabashi Zinabizana, notre envoyé spécial à ce forum.
On ne peut pas développer la transformation des minerais, effectivement, s'il n'y a pas cette énergie, s'il n'y a pas ces infrastructures. Moi, j'ai toujours dit que les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes, ce sont des opportunités à saisir. Voilà pourquoi une occasion comme celle-ci, où on discute des transformations dont l'Afrique a besoin, nous avons essayé un peu de mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, des banquiers qui sont présents, qui peut-être ont des moyens, mais qui ne savent pas où les canaliser. Nous les avons sensibilisés pour dire... Les pays comme la RDC, avec ses 2 345 000 km², avec ses 26 provinces, avec ses difficultés d'interconnexion de toutes les provinces, ce sont là non des problèmes, mais des opportunités à saisir. On doit appuyer l'accélérateur sur tous les piliers, piliers énergétiques, piliers infrastructures, piliers aéroportuaires, piliers portuaires, piliers tels que je les ai développés, pour qu'en faisant, en touchant tous les leviers, on se rassure que dans une projection qui est située entre 10 et 20 ans, on puisse relever les défis du continent africain.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, l'hôtel de ville de Kinshasa a entamé ce samedi la démolition des constructions anarchiques érigées au cimetière de Kinsuka dans la commune de Ngaliema. Cette opération a été conduite personnellement par le gouverneur Jean Tiningobila. Objectif affiché, permettre aux morts de reposer en paix. On écoute le gouverneur de la ville de Kinshasa dans ce propos recueilli par la presse du gouvernorat.
Lors de mon dernier passage, j'avais promis que je passerai ici pour passer à la démolition de toutes ces constructions anarchiques. Nous avons commencé aujourd'hui et cette opération va continuer durant tout le mois d'octobre. Ça va aller même au-delà du mois d'octobre pour on va continuer les opérations jusqu'au mois de novembre. Vous savez qu'un État digne de ce nom doit respecter les endroits où sont enterrés les morts. Si nous ne savons pas respecter nos morts, c'est-à-dire que nous sommes des inconscients. Alors ici, les chefs coutumiers en complicité avec certaines personnes ont vendu les terrains où étaient enterrés beaucoup de Congolais qui sont morts depuis les années 70. On ne pouvait pas accepter cela. Il s'agit tout simplement des profanations, des tombes, profanations de nos ancêtres qui sont morts et enterrés ici. Nous les avons rétablis dans leur respect. Et c'est une joie quand même qui me traverse l'esprit, qui me pousse à continuer encore l'avantage du travail que nous sommes en train de faire ici au sein de la ville de Kinshasa.
Pour la poursuite du journal ce soir, partons maintenant pour la Tchopo où le Parlement d'enfants et de jeunes plaide pour l'intégration d'une ligne budgétaire spéciale pour 2023. Cette requête est contenue dans un mémorandum qu'une délégation de cette structure citoyenne a remis jeudi dernier à Madame le gouverneur. Objectif visé, couvrir les besoins sociaux des enfants et des jeunes de cette province et le financement de cette structure citoyenne. Reportage à Kisangani de Jacques Mkonkolé.
Les enfants de la Tchopo continuent à être victimes de divers abus et violations de leurs droits, lit-on dans ce mémo dont une copie nous est parvenue. Parmi ces abus, on épingle notamment l'exploitation économique et sociale, la maltraitance, l'abandon, les viols et grossesses précoces. Cet appui, s'il est accordé, déclare le président du Parlement d'enfants de la Tchopo, pourrait servir à la prise en charge holistique des victimes de ces pratiques. Il servirait également à l'appui des enfants en conflit avec la loi placés à l'établissement de garde et d'éducation de l'État en pension alimentaire et en soins de santé. Hormis les victimes des violations des droits, les enfants et jeunes issus des familles les plus démunies pourraient aussi bénéficier de cette manne grâce à la mise en œuvre de programmes à impact visible. Par ailleurs, les crédits sollicités devraient aussi aider à la construction d'une salle de plénière pour les activités du Parlement d'enfants ainsi que des espaces sociaux des jeux, précise Fabrice Debo, son président. Selon lui, Madeleine Nikomba leur a prêté une oreille attentive.
La gouverneure de province nous a promis son soutien durant l'exercice de son pouvoir et nous sommes sûrs et certains qu'il y aura des retombées puisque le bureau du Parlement des enfants a continué à faire les suivis par rapport au mémorandum qui lui a été déposé.
Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Art comme évasion, c'est le thème de la première bibliothèque dite carcérale pour enfants inaugurée à la prison centrale de Makala ici à Kinshasa. Initiée par les jeunes écrivains du Congo, cette bibliothèque a été créée pour offrir aux enfants privés de liberté l'opportunité de se reconstruire par l'art et la culture. Pour marquer l'événement, une conférence de presse a été animée ce samedi à l'Académie des Beaux-Arts. Le compte-rendu de Kelioka.
L'art et la lecture comme évasion pour les enfants de la prison centrale de Makala, c'est l'objectif poursuivi par l'Association des jeunes écrivains du Congo. Plusieurs disciplines artistiques seront mises à leur disposition, nous dit Céline Ngoyi, présidente de l'AGECO.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, quotidiennement, 4 fois la semaine, on sera à la prison afin d'apporter une formation différente à ces enfants-là à travers l'alphabétisation, les matinées cinéma, la musique, la danse, à travers tout ce qui est art et identifier très vite ce que les enfants aiment, ce que certains types d'enfants aiment.
Parmi les partenaires qui accompagneront ce projet, on peut citer l'Académie des Beaux-Arts. Henri Kalama, directeur général de l'Académie.
Nous sommes disposés à accompagner l'AGECO en disponibilisant des formateurs, l'accompagner parce qu'on le faisons déjà en diffusant le message dans le cas des récoltes des ouvrages. Et après, bon, bien sûr qu'il y a l'organisation technique.
Notons que la prison de Mbandaka est la prochaine qui accueillera une bibliothèque carcérale pour enfants au dire de l'Association des jeunes écrivains du Congo.
Actualité internationale.
L'ancien président sud-africain, forcé à la démission en 2018 pour des faits de corruption, a accusé ce samedi après-midi son successeur d'être corrompu. Jacob Zuma a fustigé le fait que des ONG autodésignées pour lutter contre la corruption dans le pays sont restées silencieux ces jours-ci. Il réagissait ainsi à des allégations selon lesquelles l'actuel chef de l'État, Cyril Ramaphosa, serait impliqué dans une obscure affaire de cambriolage. À Pékin, le président Xi Jinping a annoncé ce matin la fin du 20e congrès du Parti communiste chinois, réuni devant quelques 2300 délégués et censé tracer l'avenir politique de la Chine pour les 5 prochaines années. Ce congrès doit aussi couronner le président Xi Jinping pour un nouveau mandat. Aux États-Unis d'Amérique, la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole vient de citer à Washington l'ancien président Donald Trump à comparaître le 14 novembre prochain, juste après les élections de mi-mandat. L'ex-chef de l'État républicain devra ainsi s'expliquer sur les événements survenus le 6 janvier 2021, au cours desquels des centaines de partisans de Donald Trump avaient sémé le chaos au siège du Capitole, criant ainsi à une élection volée.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Marie-Thérèse Sambo. Cette neuropsychiatre du CNPP a co-animé ici à Kinshasa un symposium des femmes sur les neurosciences à l'UNIKIN dans le cadre du mois d'octobre, mois de la santé mentale. Elle s'entretient avec Innocent Fazili.
Professeur Marie-Thérèse Sambo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychiatre et vous venez d'animer une conférence ou symposium des femmes dans les neurosciences. Dites-nous pourquoi cette conférence en ces jours.
En fait, le symposium était prévu au mois de juillet, qui est le mois du cerveau. Mais nous avons eu un peu de retard dans la réalisation et nous avons tenu à le faire au mois d'octobre parce que c'est le mois de la santé mentale. Donc, on ne peut pas parler santé mentale sans cerveau.
Et pouvez-vous nous dire, est-ce qu'il y a besoin en neurosciences?
Il y a sérieusement besoin parce que les neurosciences étudient les comportements. Alors, on ne peut pas développer un pays sans comprendre le comportement humain, sans avoir une bonne santé mentale. C'est fondamental.
Et quel effectif avez-vous en neurosciences actuellement sur toute l'étendue du territoire national?
Par rapport aux femmes?
Oui, par rapport aux femmes, effectivement.
Bon, nous n'avons pas assez de données. Mais s'il faille qu'on parte de la situation de notre centre, le centre neuropsychopathologique CNPP, où nous faisons de la neuroscience, mais de la neuroscience clinique, nous pouvons dire que l'effectif serait de 8%. Donc il y a vraiment une faible représentativité.
À ce qui concerne la différence entre neurosciences cliniques et fondamentales, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Les neurosciences cliniques, ce sont les disciplines qui s'occupent de la clinique ou qui traite de maladies qui touchent le cerveau ou la santé mentale. Alors, nous avons la neurologie, nous avons la psychiatrie et la psychologie. Les neurosciences fondamentales, c'est des disciplines qui explorent les systèmes nerveux ou le cerveau pour comprendre la maladie ou les problèmes du système nerveux.
Et quel profil recherchez-vous? Qui peut embrasser les filières des neurosciences?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, quand on parle neurosciences, on voit d'abord nous autres qui sommes en neurologie ou en neuropsychiatrie ou encore les psychologues. Mais les neurosciences, c'est vraiment un domaine qui est en train de s'étendre et toucher presque tous les domaines de la vie. Et maintenant, on peut parler de la neuroéconomie, du neurodroit. Donc, les neurosciences vraiment font des tentacules un peu partout dans tous les secteurs de la vie.
À part ce symposium, pensez-vous faire des descentes sur terrain?
Nous avions comme objectif de rassembler les femmes chercheurs ou les femmes faisant partie du corps professoral qui font de la recherche d'abord et de neurosciences en particulier. Parce que certaines n'ont pas peut-être la vision des neurosciences, mais on a cherché à leur faire comprendre qu'on peut se rassembler dans notre diversité, faire de la neuroscience ensemble et essayer de travailler en commun pour améliorer la santé cérébrale de notre population. Nous avons également visé les jeunes dames, les étudiantes, pas seulement en médecine, mais d'autres facultés, ainsi que les médecins généralistes, les médecins en spécialisation, qui peuvent embrasser les domaines de neurosciences. Mais nous ne sommes pas limités là, nous avons visé les élèves, les pré-finalistes, les finalistes. Bon, l'activité n'a pas eu lieu, mais nous nous projetons dans les jours à venir de faire des descentes sur terrain, des descentes dans des écoles pour susciter, parler aux filles de neurosciences et leur susciter en elles des vocations pour plus tard embrasser la carrière de neurosciences.
Professeur, un dernier mot à tous les auditeurs qui vous écoutent.
Je dirais tout simplement, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, les neurosciences s'occupent de la santé mentale et ce n'est pas seulement l'affaire des personnes qui sont des malades psychiatriques, mais tout le monde peut être touché et vivre la difficulté ou le problème d'une façon qui peut nécessiter soit l'apport ou la contribution des psychologues jusqu'aux psychiatres ou aux neuropsychiatres. Donc, on ne peut pas regarder les neurosciences de loin en disant que c'est l'affaire des malades mentaux, mais c'est l'affaire de tout le monde. Puisque pour que nous ayons la paix, que nous ayons un bon développement, nous devons avoir une bonne santé mentale et cérébrale.
Professeur Marie-Thérèse Sambo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, professeur Marie-Thérèse Sombo, cette neuropsychiatre au CNPP qui a animé un symposium sur les femmes et les neurosciences à l'Unikin, interrogé par Innocent Fazili. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci à Pierrot et la Mégie qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Noël Aluzi Tukabambi.